Jean Boissonnat, vous êtes le pédagogue de l'économie pour plusieurs générations. Est-ce que la crise de l'Europe ou dans l'Europe n'est-elle pas une chance pour les catholiques et pour tous ceux qui se réclament d'une spiritualité?
Oui, je crois que l'Europe a un très grand rôle à jouer parce qu'elle a une histoire qui lui est propre. Elle n'a plus les moyens d'être colonialiste ou impérialiste. C'est souvent une bonne manière d'éviter de l'être. Ce n'est pas de se convaincre soi-même au nom de je ne sais quelle valeur qu'il ne faut pas l'être, mais que l'on ne peut pas l'être. Et donc elle peut faire des expériences. Je crois que c'est une sorte de laboratoire pour le monde entier sur un certain nombre de sujets qui sont tout à fait essentiels pour construire une nouvelle société. C'est un laboratoire pour l'organisation du pouvoir politique. Pour la première fois, des États nationaux, des vrais États nationaux, c'est-à-dire avec une longue histoire, mettent en place des institutions qui, sur certains sujets, pas sur tous, gèrent l'intérêt commun. Et ça, ça sera utile au monde entier. Tout le monde devra, dans la suite du XXIe siècle, apprendre à conserver des États nationaux. Je ne crois pas du tout, moi, qu'on fera les États-Unis d'Europe, par exemple. Mais on fera une fédération d'États nationaux. Comme le dit mon ami Jacques Delors, et il a raison, c'est la bonne formule. C'est-à-dire que les États-nations ne vont pas du tout dépérir, mais pour certaines fonctions, on le voit pour la monnaie, et ça a été une chance pour l'Europe d'avoir une monnaie unique. Donc l'Europe est, de ce point de vue-là, un bon laboratoire pour le monde entier. Comment on essaye progressivement d'avancer vers une fédération d'États-nationaux qui permet de déléguer à une autorité au-dessus des États certaines missions qui ne peuvent plus être accomplies par les États-nationaux. C'est une première mission, un premier laboratoire où l'Europe, à mon avis, rend service au monde entier. Il y en a un deuxième, c'est que l'Europe étant un territoire un peu exigu, l'accumulation sur ce territoire exigu de beaucoup d'industries fait qu'elle est plus sensible que d'autres aux risques écologiques, notamment à la saturation de l'atmosphère, à l'effet de serre, à toutes ces choses-là. On le voit bien qu'en matière énergétique, elle est en avance sur les États-Unis, elle est en avance sur la Russie, elle est en avance sur la Chine. Il n'y a qu'un autre pays au monde qui est comme nous, dans un territoire exigu avec une grosse accumulation industrielle, c'est le Japon. Et ce n'est pas par hasard que les Japonais ont été les premiers à inventer la voiture électrique. Donc nous avons là une mission de laboratoire du développement durable. Et il faut s'y atteler beaucoup parce que le monde entier en a besoin, pas simplement nous autres Européens. Puis je dirais peut-être que nous sommes aussi un troisième laboratoire pour le reste du monde et pas simplement pour nos intérêts propres, c'est le dialogue des cultures. Alors il se trouve que moi j'ai une position un peu originale en France parce que les Français ne sont pas du tout dans cette longueur d'onde aujourd'hui, et le gouvernement non plus. Je crois qu'à partir du moment où la Turquie, pays de culture musulmane, a posé sa candidature à l'entrée dans l'Union, il faut prendre cette candidature au sérieux et dire aux Turcs, mais c'est peut-être l'occasion de construire entre des pays de culture chrétienne et puis un pays de culture musulmane, même s'il n'est pas arabe, de construire quelque chose de neuf et peut-être par cet intermédiaire de désamorcer quelques bombes qui peuvent exploser au cours de ce siècle. Voilà, en gros, si vous voulez, si je résume de manière un peu sommaire, ce que je vois être les missions de l'Europe dans le nouveau siècle. Je crois que ces missions sont très importantes, mais nous ne savons pas aujourd'hui si elle les remplira, parce que nous avons des élections, nous voyons bien que c'est difficile d'intéresser les populations à ça. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. L'Europe n'a jamais été populaire au sens habituel du terme, c'est-à-dire où ce sont les peuples qui ont poussé les dirigeants à faire l'Europe. Non, ce sont quelques dirigeants qui ont convaincu des peuples de les suivre pour construire l'Europe. Ça se comprend très bien. Et il ne faut pas se désespérer de ça. C'est la mission de toutes les élites. C'est les gens qui sortent de la masse de la population et qui essayent d'entraîner cette population dans les directions qu'elle leur propose pour améliorer leur niveau de vie. Non seulement leur niveau de vie, mais leur manière de vivre. Je trouve qu'aujourd'hui, dans notre pays, la France, mais dans toute l'Europe, les élites sont un peu défaillantes pour convaincre les populations d'avancer sur ces chemins où l'Europe est seule. Il n'y a qu'elle aujourd'hui qui est capable d'inventer une fédération d'États-nations dans le monde. Aucune autre entité ne peut le faire. En matière de développement durable, elle est seule avec le Japon. En matière de dialogue des cultures, il n'y a que le grand pays musulman qui veut s'associer à des pays chrétiens pour faire quelque chose ensemble. Il n'y a que la Turquie. Nous avons là une chance extraordinaire et je regrette que la classe politique ne valorise pas davantage cette mission expérimentale pour le compte de toute l'humanité de l'Europe. Et c'est sa manière à l'Europe d'exister au XXIe siècle. Comme je vous l'ai dit, elle ne peut plus, elle ne veut plus, et elle n'en a plus les moyens de dominer le monde par ses armées. Mais elle peut être utile au monde en expérimentant ces choses-là qui seront nécessaires à l'équilibre de l'univers au XXIe siècle. Je suis convaincu de ça.
Quel est l'enjeu pour un chrétien aujourd'hui de la mondialisation ?
Un chrétien ne peut qu'être tout à fait ouvert à l'idée que la vie économique et financière de développement ne se limite pas à une partie de l'humanité. Et que toute l'humanité puisse y contribuer, y participer, en recueillir les fruits, c'est quelque chose qui correspond, je dirais, à notre vaccination universaliste. Le Christ nous a dit, le message que je vous dis, que je vous donne, il est valable pour toute l'espèce humaine, et allez l'enseigner à toutes les nations. Et c'est la raison pour laquelle je suis parfois un peu réticent, ça surprend dans les milieux catholiques, à l'idée de mettre dans des textes les racines chrétiennes de l'Europe. Non pas que je les conteste. L'Europe a naturellement des racines chrétiennes, c'est dans l'histoire, on ne peut pas le contester. Mais je dis attention à ne pas enfermer le christianisme dans la civilisation européenne. Ce n'est pas que nous ayons honte de cette civilisation, mais elle a ses particularités, elle n'est pas celle de toute l'espèce humaine. Et si on veut que le christianisme soit compris, simplement compris, par le reste de l'espèce humaine, en Afrique, en Amérique latine et surtout en Asie, eh bien, il faut qu'elle n'apparaisse pas, que le christianisme n'apparaisse pas comme étant un véhicule de la société et de la culture européenne. Donc je crois que là, les chrétiens ont un rôle très très important à jouer. Et je regrette parfois que, dans mon église, c'est la mienne, donc j'y participe, on se cramponne à l'idée, mais il faut affirmer nos racines chrétiennes. Il ne faut pas les nier, mais il ne faut pas les affirmer au point que les autres, qui ne sont pas européens, aient le sentiment qu'il faut être de cette culture-là pour comprendre le christianisme. Non, le christianisme s'adresse à tout le monde. Et en Asie, il se développera avec des formules, avec des langages qui sont différents des nôtres. Peut-être même des liturgies qui sont différentes des nôtres. On voit bien quand vous allez en Afrique, les liturgies africaines ne sont pas les liturgies européennes. Et c'est très bien ainsi. La liturgie, c'est fait pour s'approcher de la même chose que nous, mais avec la culture locale. Donc, je crois que de ce point de vue-là, nous avons un grand rôle là. Et je ne suis pas sûr que nous le jouions bien, y compris dans ma chère Église catholique. Mais enfin, ça, c'est une... Je n'ai pas de prétention à définir la bonne voie.
Jean Boissonnat, vous avez été ami de grandes personnalités. Je pense à René Raymond.
Et en dehors de ma famille, j'ai eu trois grands frères. J'ai eu René Raymond, effectivement, sur le plan intellectuel. Nous étions très amis, nous étions presque copains. Où il m'a beaucoup aidé, c'est dans la sobriété avec laquelle il analysait les sujets les plus explosifs. Il gardait une sorte de tranquillité, de sérénité, de recul, même quand il avait son opinion sur le sujet. C'est ça que j'aimais chez lui. Je lui disais, tiens Raymond, comment tu votes, par exemple? Il n'avait pas à le dire dans ses livres, mais à moi, il me le disait. Mais quand il analysait une situation, il gardait un recul, une sérénité, une clarté que j'appréciais beaucoup. Donc, c'était mon premier grand frère. Mon deuxième grand frère, c'est un chef syndicaliste, Eugène Descamps. C'est lui qui a transformé une partie de la CFTC en CFDT, militant métallo du Nord. Et c'était un garçon que j'aimais beaucoup, très chaleureux. C'est un combattant. Il m'a appris que pour faire avancer les choses en matière sociale, il fallait combattre. Et c'était un chrétien du monde ouvrier. Il m'a beaucoup, beaucoup appris et beaucoup aidé. Et le troisième, c'est un homme de presse, non pas journaliste d'ailleurs, mais patron de presse, Jean Gélamure, qui a été le patron de Bayer Presse, qui a été donc de la Croix, qui a été mon patron quand j'étais journaliste à la Croix, puisque c'est par là que j'ai commencé, et qui ensuite a été le président des Semaines Sociales de France, et qui était devenu mon ami, et finalement mon grand frère, et qui lui m'a enseigné ce qu'était la vie du business. Il avait cet esprit pratique. Ah oui, ça, mais attention, là, tu sais, ça coûte combien, ça rapporte combien. Enfin, c'est une espèce d'attitude, je dirais, de mère de famille qui gère son budget. Et donc, il m'a beaucoup appris.
Vous avez connu Teilhard de Chardin ?
Alors, hélas, non, je l'ai connu par ses écrits, mais je ne l'ai jamais rencontré. J'écris dans ce petit livre que je ne sais pas si je serais encore chrétien si je n'avais pas lu Teilhard de Chardin, parce qu'il m'a donné le vocabulaire, le cadre de pensée qui me permettait de situer ma foi dans l'univers d'aujourd'hui, dans l'univers scientifique d'aujourd'hui. Et j'avais besoin d'avoir un guide là-dedans. Teilhard m'a vraiment servi de guide et je lui dois vraiment beaucoup. Ma foi chrétienne a été affermie à travers la lecture de Teilhard de Chardin, mais je crois que c'est vrai pour chacun d'entre nous. Nous avons tous comme ça quelques auteurs qui nous ont donné un éclairage sans lequel on aurait du mal à raccrocher la foi que l'on espère avoir au fond de nous-mêmes et le monde dans lequel nous vivons. Teilhard, il a été ça pour moi.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Je crois que les chrétiens ont dans ce 21e siècle une mission vraiment tout à fait essentielle pour l'espèce humaine, pas simplement pour l'avenir de leur foi et de leur Église. Je crois que s'ils ne remplissent pas bien cette mission, ce ne sera pas simplement à leur détriment, mais au détriment de l'espèce humaine tout entière. Je crois que le christianisme, dans son message, nous a apporté énormément de choses, mais nous a apporté deux dimensions qui sont tout à fait essentielles, la dimension de l'universalité, et je ne vois pas qui d'autre sait l'expliquer avec autant de conviction que la foi chrétienne, et la dimension de la personnalité. Il y a un risque, nous sommes dans des sociétés où l'individualisme est devenu très très fort. La différence entre l'individu et la personne, me semble-t-il, et j'emprunte ça à un auteur qui m'a aussi beaucoup marqué, qui est Emmanuel Mounier. Mais Emmanuel Mounier nous explique très très bien la différence entre l'individu et la personne. Il dit la personne par rapport à l'individu, c'est quelqu'un qui sait qu'à côté de son identité individuelle, sa personnalité est faite de son appartenance à des communautés, communautés familiales, communautés nationales, communautés professionnelles, communautés religieuses, et qu'il ne serait pas ce qu'il est, autrement dit, son individualité ne serait pas la même s'il n'avait pas clairement conscience de son appartenance à des communautés. Donc je dis que le christianisme, à travers l'universalisme et le personnalisme, a une mission essentielle dans ce nouveau siècle.